Mes chers amis, c'est avec un immense plaisir, une joie profonde que je me retrouve avec mon épouse Nicolette pour célébrer ce culte avec vous. C'est le deuxième dimanche de l'Avent et vous avez proposé un verbe. D'ailleurs, un verbe de chaque dimanche, hein, pour chaque dimanche qui précède l'événement de Noël. Et ce matin, j'ai la charge de décliner avec vous ce fameux verbe « espérer ». C'est un verbe très fort et je dirais même un verbe qui structure la Bible. La Bible, c'est le livre de l'espérance, la foi et l'amour. Espérer, c'est en réalité considérer comme réalisable ce qu'on désire. J'espère réussir mes études. J'espère trouver un travail. J'espère me marier et fonder une famille, avoir des enfants. C'est un vœu légitime, c'est une espérance tout à fait normale. Et comme l'a exprimé le jeune garçon tout à l'heure, j'espère recevoir des cadeaux à Noël. Vous voyez, c'est probable. La Bible est certainement le livre qui nous parle le plus d'espérer et surtout de son substantif espérance, qui est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire ardemment. Le psalmiste déclare ceci au psaume 27, verset 17. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Voyez ici, mes bien-aimés, il y a tant de désespérance dans le monde. Et c'est parce que les hommes n'espèrent plus en l'Éternel. Et je dirais qu'ils ont rejeté, d'une certaine manière, le Dieu vivant et vrai pour placer leur confiance dans ce qui est éphémère ou dans les hommes, d'où leur profond désespoir et déception, puisque la Bible dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». Un simple regard sur l'actualité suffit pour nous convaincre que la désespérance enveloppe, gangrène notre monde. Les images que nous diffusent les chaînes de télévision en continu nous plongent dans le désespoir. Peut-on rester indifférent lorsque nous voyons des enfants amputés, victimes d'une guerre dont ils ne sont nullement responsables ? Leur avenir est brisé. Notre cœur se serre lorsque nous apprenons que certaines nations n'ont pas d'autre langage sinon celui des armes. Au Soudan, des milliers de femmes et d'hommes sont déplacés et sont parqués comme des animaux dans des camps de réfugiés où les conditions de vie sont effroyables. Que dire d'un pays qui lutte pour préserver sa souveraineté nationale et qui paye le prix fort, le prix du sang? Oui, le plus fort impose sa loi, impose ses conditions. Le plus faible, bien souvent, subit la domination du plus fort et souvent dans l'indifférence générale. En France, nous sommes dans l'impasse politique. Beaucoup de citoyens ont peur que les impôts n'augmentent, que le taux d'intérêt très élevé compromette tout projet d'avenir ou d'accès à la propriété. Les agriculteurs sont désorientés après l'accord que l'Union européenne envisage de signer avec le Mercosur. Des familles sont dans l'angoisse parce qu'elles ne savent pas dans quel monde leurs progénitures vont vivre. Et sur le plan climatique, nous voyons que les catastrophes naturelles s'amplifient à l'échelle mondiale et posent la question du réchauffement climatique. Mais parfois, les différents COP, c'est-à-dire la conférence des parties, différentes COP, n'apportent pas de réponse qui satisfasse tout le monde. Souvent, l'intérêt économique des nations prime sur l'intérêt général. Alors, devant ce tableau peu reluisant que je viens de brosser, peut-on encore parler d'espérance? Pour certains, la vie paraît absurde, à l'image de Sisyphe, qui est condamné à pousser un immense rocher au sommet d'une colline, et lorsqu'il y parvient, le rocher dégringole, et Sisyphe doit recommencer inlassablement. C'est ainsi qu'Albert Camus illustre l'absurdité de l'existence humaine. Je vous signale que ce que nous vivons actuellement, les nations qui nous ont précédés l'ont expérimenté. Et j'en veux pour preuve, Habacuc, au chapitre 3, verset 17, je fais la lecture, nous dit quelque chose d'assez proche de notre réalité actuelle, de notre réalité quotidienne. En effet, dit-il au chapitre 3, verset 17, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, des champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs. Voyez-vous que le tableau que peint le prophète est effrayant, d'où son exhortation à vivre par la foi. Il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Ce sera compliqué, ce sera difficile, ce sera bouleversant. Mais moi, je veux espérer en l'Éternel, le Dieu vivant et vrai. Et il nous dit plus loin, le même prophète, que le juste vivra par la foi. Alors ce que nous dit Habacuc, c'est chercher à comprendre ce qui est juste, ce que Dieu veut, ce qu'il fait. C'est le publier et de ne pas le garder pour soi, mais l'écrire, l'annoncer autour de nous. Et vivre par la foi, c'est croire que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est comprendre que Dieu n'est pas dépassé par les événements. Bien au contraire, il les maîtrise. Et d'ailleurs, il nous est dit dans un verset, un texte de la Bible, qu'au moment du déluge, Dieu était sur son trône. Vous voyez qu'il n'a pas été dépassé par le cours des événements, mais il les maîtrise. Vivre par la foi, nous dit le prophète, c'est se réjouir. Puisque à la fin de son livre, au chapitre 3, il dit ceci. « J'ai entendu et mes entrailles sont émues. Je vois les souffrances, mais moi, déjà, je veux me réjouir en l'Éternel. » Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs, comme nous venons de le dire. Voilà la parole de l'espérance au sein d'un monde en proie à la confusion, au sein d'un monde complètement déboussolé, désorienté. C'est Dieu lui-même qui nous donne une espérance solide, une espérance inébranlable. Il garde notre vie, il garde sa valeur, il garde aussi sa dignité. Le prophète Jérémie, de son côté, était confronté à une situation géopolitique, économique et sociale extrêmement compliquée. Et pourtant, il trouve la force et la foi et l'espérance de déclarer ceci. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Vous voyez, ça c'est un verset très fort. Et le même prophète, puisqu'il envisage l'exil du peuple de l'Alliance, il envisage des jours extrêmement pénibles, difficiles, pour le peuple qui sera en captivité à Babylone pendant plus de 70 ans. Et il prévoit aussi de leur donner une parole d'espérance alors qu'ils seront en captivité. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Je connais, moi, les projets que je forme sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Un avenir fait d'espérance. Vous voyez que lorsque nous mettons notre confiance dans le Dieu vivant et vrai, nous ne sommes pas ébranlés. Et d'ailleurs, le psalmiste le dit, lorsque les flots mugissent, lorsque la mer est complètement démontée, eh bien, nous sommes en paix, puisque nous avons placé notre confiance dans le Dieu de l'Alliance. Jérémie synthétise cette critique, une critique qui dit, lorsqu'il déclare ceci, « Voici ce que déclare le Seigneur. Maudit soit l'homme qui se détourne de moi et ne met sa confiance qu'en l'homme et cherche son salut dans les pauvres moyens humains. » Dans de pauvres moyens humains, on cherche notre salut. Mais en réalité, le salut et l'espérance se trouvent dans le Dieu que nous servons. Dans le Nouveau Testament, l'espérance a un visage et l'espérance porte un nom. Et vous le savez très bien, il s'appelle Jésus-Christ, voilà l'espérance des hommes. Et c'est Siméon, un homme de Dieu, qui va l'exprimer de façon tout à fait saisissante. Il a eu la grâce de vivre pendant longtemps dans la crainte du Seigneur, dans le service du Seigneur. Et il va, au moment où Jésus est emmené dans le temple, il déclare ceci. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Luc chapitre 2, versets 29 à 32. Il a eu le bonheur, il a attendu de voir cette consolation. Il avait l'espérance, l'espoir qu'un jour Dieu enverrait le sauveur de l'humanité, c'est-à-dire Jésus-Christ, pour sauver le monde de la perdition de son péché. Dans les épîtres de Paul en particulier, nous trouvons plusieurs traces de cette espérance. Au chapitre 5, verset 5 de sa lettre aux Romains, l'apôtre déclare ceci, « L'espérance ne déçoit pas. » L'espérance ne déçoit pas. Pourquoi ? Puisqu'elle est enracinée dans le Dieu de l'Alliance, dans le Dieu qui nous maintient. Et vous savez aussi que Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 13, « Maintenant, ces trois choses demeurent. » Et je crois que nous les avons chantées, nous les avons exprimées. Vous avez chanté l'amour, vous avez chanté la foi, et vous avez chanté également l'espérance. Et c'est cela que nous trouvons dans la lettre de Paul. Maintenant, ces trois choses demeurent, trois choses essentielles, trois choses, je dirais, fondamentales. La foi, l'amour et l'espérance. Et c'est ce qu'il nous dit tout au long de ces épîtres. Il dit aussi au chapitre 4, verset 10 de sa première à Timothée, et c'est un très très bon verset, « Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Nous travaillons et luttons. Pourquoi ? Parce que notre travail n'est pas vain. Nous travaillons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant et vrai, et surtout dans le Dieu de tous les croyants, mais en particulier, dans le Dieu de tous les hommes, mais en particulier, surtout, les croyants. Alors, si les croyants se mettent à désespérer, alors là, ça c'est, rien ne va plus. Puisque il est surtout le Dieu des croyants. Et l'apôtre nous dira aussi dans sa lettre aux Corinthiens, toujours au chapitre 15, si le Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Nous n'aurions plus rien à espérer dans ce monde. Mais parce qu'il est ressuscité, il a ouvert les portes de l'espérance. Et nous savons que nous serons un jour avec lui, dans sa glorieuse présence. Il ouvre les portes de l'espérance. Et c'est pour cette raison que vous et moi, qui avons placé notre confiance dans le Seigneur, nous ne désespérons pas. Et même lorsque la mer mugit, même lorsque les flots mugissent, nous ne désespérons pas, puisque nous savons que notre Seigneur maîtrise le temps et les circonstances. Il n'est pas dépassé par quoi que ce soit. Alors, mes bien-aimés, vous comprenez que cette espérance est la source de tous nos efforts. C'est le moteur de notre vie. Et il s'agit d'une espérance qui a une dimension aussi eschatologique, prophétique. L'espérance n'est pas seulement attente de la consolation céleste, mais l'espérance apparaît également comme un pouvoir de contestation de ce qui s'oppose à Dieu. Nous ne vivons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Et je vous l'ai dit au début que l'espérance porte un nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Et puis l'apôtre Paul le dit très bien dans sa première à Timothée, au chapitre 1, verset 1, il écrit ceci. « Je suis devenu apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Christ Jésus, notre espérance. » Il est devenu apôtre par l'ordre de Dieu, mais aussi par Jésus-Christ, notre espérance. Voyez, Jésus est notre espérance. Voyez donc que Paul procède ici à une personnification de l'espérance. Notre espérance, c'est Jésus. Il est notre espérance. Et pourquoi ? Parce que après l'avoir attendu pendant des siècles, il est venu. Il est venu. Dieu a tenu sa promesse et nous a envoyé Jésus qui naît dans une étable, petit enfant, qui traduit bien la fragilité avec laquelle il arrive parmi nous. Quoi de plus fragile qu'un enfant ? Donc Jésus a épousé notre fragilité. Qui a pensé que c'était lui le sauveur du monde ? Qui a pensé que ce petit enfant allait sauver l'humanité de ses travers, de son péché ? Eh bien, c'est lui. Et d'ailleurs, Matthieu joue énormément sur le petit enfant, le petit enfant. Voilà, on cherche à tuer le petit enfant. Avant que je ne reçoive justement le thème, j'avais déjà commencé à réfléchir sur le massacre des innocents. Vous voyez, c'était ça que je voulais vous dire. Et voilà, un petit enfant qui terrorise un souverain, un roi puissant, mais il est terrorisé par le petit enfant parce qu'il sait que cet petit enfant a un avenir glorieux, que ce petit enfant est le roi d'Israël, le roi attendu. Et voilà, donc il a peur pour sa dynastie, il a peur pour sa royauté et il cherche à tuer ce petit enfant. Et bien entendu, plusieurs mourront, mais le Christ, évidemment, sera épargné. En affirmant que c'est Christ qui est notre espérance, Paul fait une critique des différentes formes de matérialisme. Il dénonce la tyrannie de l'économie et tous ceux qui mettent leur espérance en l'argent, dans des biens purement terrestres. Où avons-nous placé notre espérance ? Est-ce que c'est dans des choses éphémères ? Des choses qui ne durent pas. Et Jérémie le disait, vous avez mis votre confiance, votre espérance dans des citaines crevassées qui ne retiennent pas l'eau au lieu de mettre votre espérance dans le Dieu vivant et vrai. Alors, sur le fondement de l'Écriture, l'Église de Jésus-Christ doit proclamer que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est l'espérance des hommes dans tous leurs problèmes personnels et sociaux, si complexes soient-ils. Je me souviens d'une parabole que le Seigneur a prononcée en Luc chapitre 11, versets 5 et suivants. Une parabole dans laquelle un homme est présenté. Il est minuit, et un de ses amis vient d'arriver chez lui à minuit. On n'arrive pas chez les autres à minuit. Si j'arrive chez vous à minuit, bon, vous serez extrêmement préoccupé. Qu'est-ce que je fais là à minuit ? Vous voyez, ça se fait pas. C'est le minuit, c'est l'heure à laquelle on se repose. On ne bouge pas à minuit. Bon, les jeunes me diront non, c'est l'heure où c'est l'heure où on danse. Voilà, on est éveillé. Et puis le matin, ils sont complètement abattus, fatigués. Ils peuvent pas suivre un cours. Voilà, hein. Je rencontre souvent ce problème-là au lycée. Ils sont à 8 heures du matin, ils sont endormis. Mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es pas reposé? Ouais, bon, soit c'était la PlayStation ou autre chose, vous voyez, mais voilà. Mais en tout cas, ils dorment pas à minuit. Alors, cet homme-là, il est gêné puisqu'il a le souci de l'hospitalité. Il voit qu'un ami vient à minuit chez lui et il n'a pas de pain, il n'a pas de quoi recevoir cet ami et va chez un autre ami. Il frappe. Minuit, quelqu'un frappe à la porte. Et il demande, cher ami, est-ce que tu as 3 pains à m'offrir? Parce que j'ai un ami qui vient d'arriver. Et l'ami est fâché, il est furieux. Mais qu'est-ce que tu viens m'importuner à cette heure-là? Hein, je n'ai rien à t'offrir. Et Martin Luther King a fait une exégèse, assez séduisante de cette parabole. Il a dit, en fait, que oui, il est minuit dans notre monde. Et des hommes viennent frapper à la porte de l'église pour nous réclamer 3 pains. Le pain de l'amour, le pain de la foi et le pain de l'espérance. Est-ce que nous allons leur offrir le pain qu'ils nous réclament? Alors parfois, notre église, non, on n'a rien à vous offrir. Est-ce que nous, en tant qu'église, nous n'avons plus rien à offrir au monde? Nous avons le pain de l'amour, nous avons le pain de l'espérance, nous avons le pain de la foi à leur offrir. Puisqu'ils sont désespérés, puisqu'ils sont dans le désespoir, et nous, Église de Jésus-Christ, nous pouvons leur offrir cela. De nombreux jeunes gens frappent à la porte de l'Église devant la perplexité et les incertitudes de la vie, troublés par les déceptions quotidiennes, déçus par les ambiguïtés de l'histoire. Et nous sommes appelés à leur offrir le pain frais de l'espérance et allumer en eux la conviction que Dieu a le pouvoir de tirer le bien du mal. D'autres frappent à la porte de l'Église puisqu'ils sont tourmentés par la crainte de la mort, puisqu'ils avancent au soir de leur existence. Nous devons leur offrir le pain de la foi en l'immortalité pour qu'ils comprennent que cette vie terrestre n'est qu'un prélude à une nouvelle existence dans la présence glorieuse de notre Seigneur. Oui, nous vivons des temps difficiles, des temps d'incertitude, enveloppés dans les ténèbres de l'angoisse et de la méchanceté, je dirais même de la cruauté des hommes. L'Église a pour mission de réaffirmer qu'aucune nuit, si épaisse soit-elle, ne dure longtemps. Notre message est un message d'espérance. L'aurore viendra. Les ténèbres ne dureront pas éternellement. Et le prophète le dit, hein. Les ténèbres ne régneront pas tout le temps sur la terre, mais elles seront chassées par la lumière éclatante, resplendissante de la venue de notre Seigneur ici-bas. Oui, la venue du Fils de Dieu que nous célébrons en ce mois de décembre et nous rappelle, puisque tout partout est illuminé, toutes les villes sont illuminés et cette lumière traduit bien celle que le Seigneur répand sur le monde en chassant l'obscurité qui nous enveloppe. La foi en l'aurore naît de la foi en la bonté et de la justice de Dieu. Même les nuits les plus privées d'étoiles peuvent annoncer l'aube de quelques grands exploits. Le soir arrive des pleurs, nous dit le psalmiste. Et le matin, l'allégresse. Le soir, c'est une image, effectivement, des moments difficiles que nous pouvons expérimenter, vivre au quotidien. Mais ça ne dure pas éternellement. Le Seigneur intervient, et il intervient toujours pour nous remettre debout, pour nous relever, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Notre Dieu, affirmait Martin Luther King, est capable de tailler une pierre d'espérance dans une montagne de désespoir. Voyez, où tout semble être noir, sombre, mais il taille une pierre d'espérance pour nous dans cette montagne de désespoir. Et pour l'apôtre Paul, il n'y a pas d'espérance vraie que si le Dieu de Jésus-Christ y trouve sa place. Le Dieu de Jésus-Christ est au cœur même de notre existence. Et c'est lui qui ravive, c'est lui qui ranime l'espérance par laquelle nous sommes debout. À l'inverse de l'espoir humain dont les appuis sont faibles, fragiles, l'espérance chrétienne pour Paul est sûre et certaine en fonction de son origine et de son objet. Elle est solide, indéfectible, puisqu'elle repose sur le rocher des siècles. Notre espérance repose sur le rocher des siècles, et c'est une image à travers laquelle les écrivains bibliques représentent Dieu. Il est le rocher des siècles. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas, il est immuable. On peut s'appuyer sur lui. Et c'est pas en vain que Jésus nous dit que le juste a bâti sa maison sur le roc. La mer s'est agitée, le vent s'est levé, la tempête a soufflé. Et cette maison est restée solide puisqu'elle était bâtie sur le roc. Et qui est le roc? Qui est le rocher des siècles? Notre Dieu. Amen. C'est notre Dieu qui ne bouge pas. C'est notre Dieu qui est fidèle. Sa fidélité dure à jamais, de génération en génération. Souvent, on trouve cette métaphore dans l'Écriture pour parler de Dieu. Dieu, il est ce rocher. Autrement dit, il est stable, il est solide, il est permanent, il est fidèle, il ne change pas. On peut construire sur lui. L'espérance chrétienne, pour terminer, se fonde sur Dieu, je l'ai dit, qui est le rocher des siècles. Hier, nous avons assisté à la réouverture de Notre-Dame de Paris, une cérémonie grandeur nature. Mais ce que nous pouvons déplorer, c'est qu'une église peut être facilement transformée en musée. Et notre église évangélique aussi peut être transformée en musée. On y vient, on regarde, on écoute, on chante aussi, et puis on repart. Vous voyez, ça peut être, on peut encourir cette tentation-là. On vient pour admirer l'architecture gothique. On vient pour découvrir, mais avec quel talent ces gens ont su restaurer ce qui allait périr. Mais c'est tout à fait fabuleux, c'est extraordinaire. Eh bien, spirituellement, les gens qui frappent à la porte de notre Église doivent venir admirer, contempler le Dieu de Jésus-Christ, contempler sa gloire et lui demandant de restaurer justement notre vie, de restaurer une relation rompue, de restaurer un amour déçu, fragilisé. C'est cette espérance que nous devons lui demander au sein même de notre Église. Qu'est-ce qui doit restaurer dans ma vie personnelle? Qu'est-ce qui doit modifier? Et lorsqu'il restaure, il restaure pleinement, parfaitement. Oui, c'est extraordinaire ce que les hommes ont pu faire, tous les corps de métier. Mais ce que Dieu peut faire d'une vie est tout à fait extraordinaire, est impérissable. Laissons-le transformer notre vie. Laissons-le restaurer notre relation avec lui, afin que nous soyons pas une église musée, mais une église vivante. Et qu'est-ce qu'il nous dit l'apôtre Pierre? Nous sommes des pierres vivantes, pas des pierres mortes, des pierres vivantes qui célèbrent notre Dieu. Mais on ne rencontre pas celui qui est vivant souvent alors qu'il est présent au milieu de nous. Celui qui invite les hommes à la sagesse, c'est lui qui invite les hommes à l'humilité. C'est lui qui invite les hommes à l'amour. Nous avons vu plusieurs chefs d'État. Mais lorsqu'on va leur demander de bâtir un projet d'amour, d'humilité et de sagesse, ce sera beaucoup plus compliqué pour eux. Nous souhaitons la paix de Noël sur notre monde. Que la lumière qui brille de la grotte de Bethléem illumine et transforme des vies entières, à commencer par les nôtres aujourd'hui, ce matin. Alors, nous pourrions terminer avec cette formule de bénédiction que nous trouvons en Romains, chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance, que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.